Vous écoutez
RMC.
7h59 sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h. Mais d'abord, la météo. Et Géraldine, il y en a un peu pour tout le monde.
Oui, et il y aura du soleil à la fin de la semaine. Du soleil et de la chaleur. Mais en attendant, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un temps variable. Avec des averses près de la Manche ce matin. Cet après-midi, on va retrouver ces averses sur tout le nord-ouest, entre la Bretagne, Pays de la Loire, centre, Île-de-France, donc jusqu'aux côtes de la Manche. On aura de la pluie une bonne partie de la journée vers les Pyrénées. Et puis ailleurs, nuages, éclaircies. Plutôt pas mal de soleil près de la Méditerranée. Pour les températures, températures qui sont en baisse, ça va être sensible cet après-midi. On sera souvent sous les normales de saison avec 16 à 21 degrés pour la moitié nord, 20 à 23 en général au sud, plutôt 24 à 29 au bord de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Très belle journée sur RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'affaire Liana, plus jamais une affaire politique désormais. Une nouvelle réunion aura lieu dans la matinée à Matignon. Le gouvernement veut accélérer, vous allez voir, deux textes de loi sur la protection de l'enfance et sur les violences sexuelles. On va revenir aussi sur ce chiffre ce matin. De plus en plus de médecins pratiquent les dépassements d'honoraires d'après un rapport qui vient d'être publié. Et aussi sur les premières polémiques déjà à la Coupe du Monde de football avant la cérémonie d'ouverture dans deux jours. Un arbitre somalien a été refoulé des États-Unis et l'équipe d'Ouzbékistan a été contrôlée avant un match.
Nouvelle réunion ce matin à Matignon dans la foulée de l'affaire Liana.
Et au lendemain, des rassemblements partout en France devant les tribunaux pour pointer du doigt la responsabilité de la justice dans la mort de cette jeune fille de 11 ans seulement. Est-ce un raté? Est-ce un manque de moyens? Écoutez la réponse du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, à ce sujet, c'était hier soir sur BFM TV.
Dans l'affaire Liana, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question numérique. C'est pas une question de manque d'OPJ ou de manque de procureur de la République. Ça peut arriver ailleurs, bien évidemment. C'est un dysfonctionnement absolument terrifiant.
Autrement dit, ce n'est pas une question ni de loi, ni d'argent. C'est ce que dit en tout cas Gérald Darmanin. Il y a quand même cette nouvelle réunion, donc, ce matin, à Matignon, où le Premier ministre Sébastien Lecornu convoque 5 ministres. Sonia Gobry, du service politique à RMC, avec pour idée de faire avancer des textes sur la protection à l'enfance et sur les violences sexuelles.
Oui, cette réunion vise à arbitrer de nouvelles mesures utiles et efficaces. Sébastien Lecornu en suggère plusieurs. Alourdir les peines en cas de viol en série, revoir les règles de prescription, mieux informer les victimes tout au long de la procédure ou encore renforcer la motivation des classements sans suite concernant les crimes et délits sexuels. Le Premier ministre veut aussi accélérer l'examen de la proposition de loi soutenue par une centaine de députés de tous bords politiques pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La présidente de l'Assemblée demande au gouvernement de l'inscrire rapidement à l'agenda du Parlement, en juillet ou en septembre. Sébastien Lecornu ne donne pas de date, mais pour lui, la tragique mort de Liana confirme l'urgence. Il promet d'ailleurs que les budgets consacrés à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles seront préservés en 2027. Ils devront même, dit-il, être encore plus ciblés sur cette priorité.
Et alors, on a de nouvelles informations ce matin sur le suspect Jérôme Barella dans cette affaire et sur ses conditions de détention, Luc Allobert.
Oui, Jérôme Barella a été incarcéré dans une prison du sud de la France. Il devrait prochainement être placé à l'isolement pour éviter les contacts avec d'autres détenus qui pourraient le menacer. Comme la plupart des détenus, il peut avoir accès à la télévision et suivre les informations. C'est pour ces différentes raisons que les services pénitentiaires de la prison redoublent de vigilance sur le risque de suicide du suspect. Toujours selon les informations de BFM TV, ces deux filles mineures, dont la plus grande était amie avec Liana, ont été déscolarisées après les événements. Elles sont actuellement avec leur mère.
L'autre information, c'est que son propre frère a également été placé en garde à vue. C'était hier pour des soupçons de viol sur son ex-compagne. Elle avait déposé plainte en 2024 pour des faits remontant aux années 2000. On apprend là ce matin que la garde à vue de Patrick Bruel est prolongée de 24 heures à Paris, là où le chanteur est entendu depuis hier matin pour des faits de violence sexuelle concernant 13 victimes d'après le parquet de Nanterre. Deux nouvelles plaintes ont été déposées hier en attendant deux autres qui le seront la semaine prochaine. Je vous signale que la liste des candidats à la présidentielle s'allonge encore un petit peu plus ce matin à gauche, puisque désormais le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, est candidat à cette élection. Il vient de l'annoncer, il avait fait parler de lui récemment en se battant contre l'implantation d'un restaurant Master Poulet dans sa ville de banlieue parisienne. Il y a donc ce chiffre ce matin qui va forcément attirer votre attention. De plus en plus de médecins pratiquent les dépassements d'honoraires. Le constat est fait ce matin par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Ils étaient, écoutez bien, 41% à facturer des dépassements d'honoraires en 2010. C'est passé à 56% en 2024. Plus de la moitié donc, surtout chez les spécialistes. Et ça, Cassandre Brault, vous avez interrogé des patients pour RMC, ils l'ont bien remarqué.
C'est le cas de Marie-Laure, 49 ans. À chaque consultation de spécialiste, elle fait chauffer la carte bleue.
Entre 50 et 80 euros. C'est beaucoup pour nous. Moi, ça m'est arrivé de ne pas aller voir ma gynécologue, mais de plutôt venir voir le généraliste, parce qu'il est moins cher.
Le rapport pointe aussi que les dépassements d'honoraires ne sont pas toujours clairement indiqués chez les spécialistes. Hélène, 72 ans, en a fait les frais.
On le découvre quand on arrive sur place. C'est pas normal. Je veux dire, il devrait être précisé très clairement, vous voyez. Ça devrait être marqué, catégorie 1, catégorie 2. Et puis de quel montant ?
Des nouveaux spécialistes se sont installés en secteur 2 en 2024, qui autorise les dépassements d'honoraires, contre 58% en 2010. Et il y a une raison à cela, selon Franck De Vulder, membre du conseil et président de la Confédération des syndicats médicaux français.
L'expertise, ça se rémunère à hauteur de ce qu'est une expertise. Les tarifs n'ont pas bougé depuis plus de 30 ans. Et ça explique aujourd'hui pourquoi nombre de jeunes médecins spécialistes s'installent en secteur 2.
Le rapport préconise également d'interdire les dépassements d'honoraires sur les actes de prévention, comme la mammographie.
Il est 8h06 sur RMC, on est au lendemain de la victoire de l'équipe de France de football. 3 buts à 1 contre l'Irlande du Nord à Lille. C'était le deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde pour les Bleus. Avec ce qu'on retient, le fait marquant de la soirée, c'est ce triplé de Michael Olise que salue le sélectionneur Didier Deschamps.
Michael est rayonnant de par la saison qu'il a réalisée au Bayern. Avec nous aussi, il a fait de très bonnes choses. Ça a mis un petit peu de temps. Au début, les 3, 4, 5 premiers matchs pour qu'il se libère aussi, parce que c'est pas un caractère très expressif, il est plutôt introverti, mais il est très attachant, donc il a tout fait pour être à ce niveau-là, et on aura besoin de lui à son meilleur niveau.
Alors c'est demain que Didier Deschamps et les Bleus vont décoller pour leur camp de base de Boston aux États-Unis, où cette Coupe du Monde fait déjà parler d'elle, avec des polémiques pour des raisons extra-sportives, avec deux faits marquants ces dernières heures. Nicolas Pelletier, vous êtes un des nombreux journalistes d'RMC mobilisés pour ce mondial, et on vous retrouve en direct ce matin de Los Angeles. Alors d'abord, il y a cet arbitre somalien qui a été refoulé à son arrivée aux États-Unis.
Oui, après 14 heures de vol en provenance de Turquie, Omar Abdulkadir Artan, qui disposait d'un passeport diplomatique fourni par son gouvernement, s'avance sur la file réservée à l'aéroport de Miami. Mais le rêve d'être le premier Somalien à arbitrer un mondial va s'arrêter là. Derrière le comptoir, les officiers de l'immigration expliquent à l'arbitre que l'accès aux États-Unis lui est refusé. Le service de protection des frontières expliquera ensuite qu'il y a eu des problèmes à la vérification des documents. La Somalie est l'un des 12 pays dont les citoyens sont interdits de voyage aux États-Unis. Et face à cette décision, la FIFA ne bouge pas. Contactée, l'instance explique ne pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes. Hier soir, le meilleur arbitre africain de 2025 a promis que son moral était bon.
Et alors, autre fait marquant, Nicolas Pelletier, c'est l'équipe d'Ouzbékistan qui a eu droit à un contrôle en descendant de son bus avant de jouer un match amical.
Oui, à son arrivée pour un match amical dans un stade de New York, la délégation ouzbek tombe sur des officiers de sécurité. Les joueurs sont fouillés un par un, les sacs regroupés au sol pour faire passer un chien renifleur d'explosifs. Une sécurité stricte. Plus surprenant, leurs adversaires hollandais n'ont pas eu droit à cette fouille intrusive. En temps normal, dans les grandes compétitions, le pays hôte met tout en place pour éviter ces protocoles de sécurité aux délégations. Ce n'est pas le cas aux États-Unis et ça agace les équipes. Par exemple, plusieurs d'entre elles ont été longuement fouillées lors de leur arrivée sur le sol américain, directement sur le tarmac de l'aéroport.
Voilà, l'équipe d'Ouzbékistan contrôlée, mais pas celle des Pays-Bas. Nicolas Pelletier, en direct donc ce matin des États-Unis pour RMC. On va vivre avec vous et tous les journalistes à mobiliser cette Coupe du Monde sur RMC pendant plus d'un mois, que ce soit le sportif et l'extra-sportif. Et alors, autre fait marquant de la nuit, c'était aussi aux États-Unis, c'est Donald Trump qui a été sifflé, hué à New York, où il assistait au troisième match de la finale NBA que les Spurs de San Antonio ont gagné 115-111 contre les Knicks de New York, revenant à 2-1 dans cette série, avec un très bon Victor Wembanyama qui a marqué 32 points dans la nuit.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, l'absentéisme continue inexorablement d'augmenter en France.
Oui, inexorablement, parce que d'habitude, quand le marché du travail se dégrade, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, l'absentéisme a plutôt tendance à diminuer, parce que bon, les salariés sont un peu plus prudents, ils se disent, je risque de perdre mon travail, donc allez, je vais faire des efforts. Mais aujourd'hui, rien n'y fait. Un salarié du secteur privé sur trois a pris au moins un arrêt de travail en 2025. Ce sont en permanence 4,3% des effectifs d'une entreprise qui sont absents, c'est 25% de plus qu'en 2019. Il y a eu une rupture avec le Covid en 2020 et depuis, il n'y a pas eu de retour à la situation d'avant. C'est la principale conclusion de cette étude publiée ce matin par Humanis. Alors, il y a à la fois augmentation des arrêts maladie chez les plus de 55 ans, qui travaillent de plus en plus longtemps et pour qui les arrêts sont de plus en plus longs, c'est quasi mécanique. Et puis il y a augmentation chez les jeunes aussi, qui eux ne sont pas arrêtés plus longtemps, mais de plus en plus souvent.
C'est-à-dire des petits arrêts,
oui,
mais beaucoup plus souvent.
Exactement.
Pour quelles raisons les salariés sont de plus en plus absents, donc ?
Alors, chez les seniors, c'est le physique qui se fragilise avec l'âge. Les pathologies sont de plus en plus complexes à traiter. Les jeunes, eux, évoquent des difficultés financières accrues, des emplois plus pénibles et une dégradation de leur santé mentale. Santé mentale fragilisée aussi chez les cadres, dont l'absentéisme est deux fois moins élevé que chez les non-cadres, mais qui progresse pourtant fortement. C'est lié à l'hyperconnectivité, c'est lié au télétravail qui a beaucoup perturbé les managers. Santé mentale, c'est de loin le premier motif d'arrêt. Aujourd'hui, presque 4 cas sur 10 d'arrêt maladie, loin devant les troubles musculo-squelettiques et les difficultés croissantes d'accès aux soins psychologiques et psychiatriques n'arrangent rien. Dans les entreprises, il y a une prise de conscience sur la prévention. Ça commence, on dira jamais à quel point faire venir un ostéo dans une boîte, ça coûte pas cher et ça peut provoquer beaucoup d'effets positifs. Par contre, ce qui pêche, c'est souvent la reprise de travail après un arrêt maladie. Beaucoup de salariés considèrent qu'ils sont mal accompagnés au moment où ils reviennent. Et ça, c'est encore un point à améliorer énormément.
Merci Emmanuel. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC, ça monte ou ça descend?
Sur le diesel, il y a un seuil de résistance manifestement à 2,03 € le litre. Ça fait plusieurs jours qu'on est sur ce niveau de prix. Le samplon 95, il continue gentiment à baisser un petit centime par jour. Là, on est à 1,95 €. Le pétrole, toujours dans son couloir, 90-95 $ le baril à 93,4 €. Et puis le gaz, ça remonte tout petit peu, le gaz de jour en jour. Il va falloir commencer à surveiller 51 € le mégawattheure.
Merci Emmanuel. 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demanche revient pour nous faire rire. À 8h30, le face-à-face, ce sera Laurent Wauquiez, mon invité, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale. C'est sa première prise de parole depuis la mort de la petite Liana. Est-ce qu'il faut refonder la justice? Est-ce qu'il faut davantage de moyens? Est-ce qu'il faut réorganiser l'État? Les réponses donc de Laurent Wauquiez, ce sera à 8h30. Juste après les dernières infos de la Coupe du Monde, ce sera avec vous, Mathieu Béliard, et ce sera à 8h50.
Et si la France va loin dans la compétition, est-ce qu'on pourra faire la fête sans débordement? On a tous en tête les violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions avec le service police-justice d'RMC. On verra s'il faut craindre la même chose pour le Mondial.
La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC, radio officielle. Vous ne manquerez rien de l'événement grâce à nos reporters sur le terrain et en studio. Le studio délocalisé à New York, aux abords du stade, aura lieu la finale le 19 juillet. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et comme tous les jours, pour notre plus grand bonheur, Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Tous les jours pour votre plus grand bonheur.
Eh
c'est
oui.
Vachement gentil.
Eh oui.
C'est trop sympa. Alors Apolline, tiens, avant de commencer les amis, je voudrais vous tenir au courant de ma petite cuisine interne. Vu l'actu, j'ai changé de co-auteur. J'ai pris Dominique Rizet maintenant.
Oui. Voilà. Non, je suis pas plus sûr.
Patrick Bruel était en garde à vue hier. Alors, ça a été une garde à vue compliquée puisque l'inspectrice lui a posé des questions. Alors, oui, c'est un bruit de machine à écrire, l'ambiance. C'est un peu désuet, mais la justice manque de moyens.
Tout à fait, tout à fait.
Donc elle lui a demandé, « Monsieur Bruel, que répondez-vous à vos accusatrices ?»« Je sais pas, je... »« Monsieur Bruel ?»« Pardon, je me noyais dans vos yeux. » mademoiselle.
Bon, je dois vous passer les menottes, monsieur Bruel.
Déjà ? Coquine. Après, il a essayé de soulever la robe de son avocat. Oh, c'est joli ce petit caleçon. Bref, il arrête pas. Monsieur Bruel, on va se donner rendez-vous dans 10 ans alors. Hein. Même jour, même heure, mais à la prison de la santé. Ce sera mieux.
Gérard Larcher a annoncé vouloir conserver la présidence du Sénat pour les élections, après les élections sénatoriales de 2026.
Oui, ça y est, enfin ! Enfin, c'est le coup d'envoi de l'événement politique de l'année. RMC, les élections sénatoriales 2026.
Senatorial Elections 2026.
La chambre haute restera-t-elle à droite, Apolline, ou basculera-t-elle à droite? Que va devenir Philippe Grosvalet dans la 6e circonscription de Loire-Atlantique? Et Marie-Pierre Mouton,
bah oui,
sera-t-elle réélue dans la Drôme?
Énorme question.
La suppléante de Gilbert Boucher,
oh,
car un mouton a remplacé un boucher. C'est une vanne spéciale sénatoriale.
Chantal Goya, belle histoire.
Qui a fait beaucoup rire sur Public Sénat. Il se la raconte depuis 2 ans à chaque repas et ils sont couchés de rire. Les sénatoriales, j'adore. Les sénatoriales, on dirait un nom de résidence pour retraités. La résidence des sénatoriales vous accueille dans un cadre privilégié pour passer une retraite heureuse et épanouie.
Oui.
Un vaste jardin en plein cœur de Paris, des sièges conçus sur mesure pour vos fessiers, des années de siestes paisibles et de déjeuners gourmands, entourés d'amis chauves et en surpoids. C'est ça la vie au sénatorial. Les sénatoriales vous présentent Slam avec Cyril. Bref, la première règle pour être sénateur, vous savez ce que c'est ? Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de 24 ans révolus.
Oui.
Une règle parfaitement respectée.
Ah ouais.
Personne de 24 ans au Sénat, ni même de 34 ans. Ni même de 44 ans. Le profil type du sénateur, c'est environ 132
voilà.
ans. Il faut avoir connu minimum 6 présidents de la République et 15 réformes inefficaces de la justice
voilà.
pour pouvoir être sénateur. En tout cas, Macron, il doit être jaloux de Gérard Larcher. De... Hey, comment ça, 3 mandats ? Pourquoi lui, il peut et pas moi ? Alors que les Français me réclament à corps et à cri. Restons modestes.
Oui.
Restons modestes.
Puis vous vouliez nous reparler de musique.
Oui, après vous... Patrick Bruel, restons dans les naufrages musicaux puisque ah, David et Jonathan se reforment.
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'un
Et là, je dis, ça suffit, oui. Les dysfonctionnements.
Ça suffit.
J'en appelle à la démission de la ministre de la Culture. Va-t'en, machine.
Oui.
Quel que soit ton nom. Vu qu'on ne te connaît pas. Et on ne va pas faire l'effort, dans 6 mois, tu n'es plus là. Mais alors, c'est qui, en fait? Vous le savez, vous?
Non, d'ailleurs.
Eh ben non, ben voilà.
Ah, si, c'est l'ancienne patronne
du château
de Versailles. Oui.
On n'a pas son nom, mais.
Catherine Pégard.
Pégard.
Si moi, je ne sais pas.
Ça se voit que vous êtes une professionnelle, ça se voit que vous avez une oreillette.
Oh, non, c'était pas mal.
C'est pas vrai. Et il ne s'était pas vu depuis 35 ans. Et voilà, la belle histoire d'amitié qui renaît un beau matin après un furtif coup d'œil sur les comptes en banque. David appelle Jonathan. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Mais je sais pas. On va faire la tournée des ringards des années 80, alors, hein, y a besoin d'oseille. Enfin, je veux dire, notre public nous réclame. Si ça se trouve, c'est Julien Courbet qui les a retrouvés. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, j'avoue, on a un peu merdé sur Xavier Dupont de Ligonnès la semaine dernière. Mais cette semaine, nous avons retrouvé la trace d'un autre duo affreux, machiavélique et sadique, qui a torturé des millions d'oreilles dans les années 80, David et Jonathan eux. Alors, Maître Grosfignon, que peut-on faire contre David et Jonathan? Écoutez, j'en ai rien à foutre là, j'ai 150 dossiers en attente sur mon bureau, Darmanin me fout une pression, alors David et Jonathan... Les billets pour la tournée sont en vente sur le Minitel 3615 vacances, mais aussi au Megastore des Champs-Élysées. N'hésitez pas. Voilà, vous l'avez dans la tête pour la journée. Apolline, elle va interroger Laurent Wauquiez. Est-ce qu'on part quand même en vacances? On s'est pas trop vu le prix de l'essence.
Oh là là,
courage Apolline.
Très bon. Si je pouvais faire une interview de face à face
en musique.
C'est vrai qu'en fait on n'y pense
bon
pas assez.
En musique c'est bien, il y a un truc à trouver.
Ce serait pas mal. Merci beaucoup Arnaud qu'on retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France. À Nice, à Gaillac, au Garric, à Dijon, à Montpellier, à Hyères ou encore à Morières-les-Avignons. Et c'est un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et à 8h20, je voudrais qu'on puisse accueillir Virginie, qui nous appelle d'Uzès, dans le Gard. Bonjour Virginie.
Et bonjour à toute l'équipe.
Comment ça va? Vous êtes chef d'entreprise, alors dans quel domaine?
Alors moi, je suis dans le service à la personne.
Ok. Vous avez entendu tout à l'heure Emmanuel Le Chypre qui, dans la chronique Écho, disait qu'il y avait de plus en plus d'arrêts maladie, d'absentéisme au travail. Vous le constatez, vous ?
Tout à fait. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'embaucher ma première assistante parce que ça fait 4 ans que j'ai créé.
D'accord.
Donc pour un peu déléguer.
Enfin.
Donc 4 mois. Oui. 4 mois de période d'essai, 15 jours après que la période d'essai soit validée, arrêt de travail.
Ah.
Voilà. Et on ne comprend pas le système, c'est que ce n'est pas des arrêts de 15 jours, c'est que les médecins mettent 1 mois directement. Et
d'accord.
Ça fait 4 mois qu'elle a 1 mois.
Qui est renouvelé à chaque fois.
Donc, d'arrêt de travail. Et renouvelé à chaque fois de 1 mois.
D'accord.
Donc, ce qui impacte bien sûr l'entreprise. Hein.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce qu'il y a une... Alors, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que les personnes plus âgées, à partir de 55 ans, ce sont des arrêts souvent dus à un craquage physique, et que les plus jeunes, c'est plutôt un craquage mental.
Alors, je ne sais pas, là, nous, c'était du télétravail, donc les horaires, c'est 9h-16h, pas de travail le mercredi.
C'est assez cool.
Je ne sais pas où peut être le craquage mental dans ces conditions-là. Moi, ouais. Je trouve qu'il y a de l'abus quand même sur les médecins qui mettent des prolongations d'un mois. Après, c'est plus un chantage en disant on fait une rupture conventionnelle ou alors...
Mais au bout, de 15 jours de travail.
Oui, tout à fait.
Enfin, 15 jours plus les 4 mois d'arrêt d'essai.
Voilà, tout à fait.
Donc là, vous êtes à bout, vous. C'est vous qui voudriez vous mettre en arrêt, là.
C'est ça. On pense jamais à la santé mentale des petits dirigeants. On parle pas des dirigeants du CAC 40. On parle des petites TPE comme nous, où on essaye d'embaucher, de créer de l'emploi sur notre secteur. Et quand enfin on peut déléguer, on a ce genre de personnages qui arrivent. Et on se dit, on n'a plus envie d'embaucher, en fait.
Donc,
on a
plus envie. Super décourageant.
Le système est... Ah oui, super décourageant. C'est, et on pense ni à la santé du dirigeant, mais surtout, hein, je ne parle pas que des salariés en arrêt de travail, je parle aussi des cotisations URSSAF, qu'on a le même cotisation URSSAF que des grands patrons du CAC 40. Donc on est en train de tuer les petites entreprises en fait en France.
Mais merci beaucoup. Système. Merci Virginie pour votre témoignage ce matin. Virginie, chef d'entreprise dans le Gard à Uzès. Il est 8h23. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Laurent Wauquiez. Ça se passe sur RMC, BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
8h29, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Wauquiez.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le député de Haute-Loire et président du groupe Droite Républicaine, le groupe LR à l'Assemblée Nationale. De très nombreuses questions à vous poser. Et d'abord, évidemment, après la mort de Liana et la série en chaîne de dysfonctionnements, de ratés, Que faire? La réponse politique. Le Premier ministre dit qu'il réunira à nouveau ce matin les ministres concernés. Gérald Darmanin, Laurent Nunez, la ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Égalité Femmes-Hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire?
D'abord, je voudrais juste dire quelque chose. Ça me rappelle des souvenirs qui sont très douloureux. Chez moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu un drame qui était exactement la même chose. À l'époque, les mêmes gesticulations. Sur une gamine qui devait avoir 13 ans au collège Chevenol, qui avait été torturée, violée, brûlée par un assassin, un prédateur, qui avait été mis dans un internat mixte, alors même qu'il y avait déjà eu des plaintes de viol contre mineurs contre lui. Et j'ai l'impression de revivre la même chose.
Vous parlez d'Agnès ?
Oui, bien sûr. Agnès au collège Chevenol, chez moi en Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon. Le même drame. Les mêmes visages de familles abasourdies, la même colère, les mêmes marches blanches, le même dysfonctionnement de la justice. Et je me dis, mais ça se reproduit, on a la même chose. À quel moment est-ce qu'on prend la mesure de ce à quoi on a à faire face? Parce que pour répondre très simplement et clairement à votre question, je crains que ce soit pas un fait divers, c'est pas un acte isolé. Il va pas seulement suffire de chercher la responsabilité de tel politique, tel procureur, tel personnel de gendarmerie. On a affaire pour moi à la faillite globale de la justice française. Ça remonte à loin. On en a aujourd'hui l'aboutissement. On a un système de justice qui ne marche plus, qui ne protège plus, qui ne protège pas nos enfants. Et donc si on veut répondre, c'est pas de la gesticulation qu'il va falloir, c'est un changement très profond de toute notre approche de politique pénale.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces réunions qui s'enchaînent, ces conférences de presse à l'Assemblée nationale, à Matignon, c'est de la gesticulation ?
Non, ça veut dire, je pense que quand le garde des Sceaux dit clairement, c'est pas juste des responsabilités à établir sur une affaire, mais qui pose le problème global de l'ensemble de la politique pénale, je pense qu'il a raison. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a une justice extrêmement lente en France. Et tout se tient. Quand on a une justice qui n'est pas capable de condamner dès le premier délit, quand on a une justice qui n'est pas capable de réagir aux casseurs, c'était quand même le débat de la semaine dernière.
Il y a une semaine, quasiment jour pour jour, on était dans les premières comparutions immédiates après les casses autour de la victoire du PSG.
Et avec le retour de ce qui s'était passé il y a un an, souvenez-vous, 500 gardes à vue, même pas 10 personnes qui vont en prison. Quand on a une justice qui n'est pas capable d'expulser des délinquants étrangers, quand on a une justice qui n'est plus capable de mettre hors d'état de nuire des prédateurs sexuels, on a un problème majeur. C'est que la justice, pour qu'elle marche, il y a deux conditions qui sont simples, je pense, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre. La première, il faut que ce soit rapide. En moyenne, au Royaume-Uni, on juge 3 fois plus vite et il y a 50% de places de prison de plus. En France, notre justice est beaucoup trop lente. 4 ans. 4 ans, vous vous rendez compte. 4 ans en moyenne. Et c'est comme ça qu'on récupère cette situation. Puis deux, la deuxième chose, c'est que comme il n'y a pas de sanctions dès le premier délit, comme on a perdu le sens d'une politique pénale qui est quand même de mieux sanctionner pour pouvoir mieux protéger, eh bien à l'arrivée, on est submergé par la violence, par la délinquance, par les prédateurs, parce qu'il n'y a plus de peur et donc il n'y a plus de respect.
Donc la question de la sanction pénale, pour vous, est liée à tout le reste ?
Pour moi, tout se tient. Sinon, vous ne comprenez pas. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui se disent « Mais comment c'est possible ?» 70 000 plaintes qui mettent en question des mineurs qui sont en cours d'instruction. 70 000 en France. Comment c'est possible ? Malheureusement, la réponse, elle est là. C'est que comme notre justice est trop lente, comme elle n'arrive plus à endiguer le flot de violence, elle est submergée par des faits qui se multiplient et face auxquels on ne pose pas dès le début des sanctions.
Gérald Darmanin qui a donc annoncé ce dimanche en effet qu'il allait demander aux procureurs généraux de reprendre, je cite, l'intégralité des plaintes qui touchent des enfants, soit environ, dit-il, 70 000 dossiers d'ici au 14 juillet. Il faut le faire quand même.
Évidemment qu'il faut le faire. Mais la réponse, elle ne sera pas là seulement. C'est-à-dire, la réponse, c'est plus globalement de se poser sur toute notre politique pénale. Et ce que je veux dire aussi à ceux qui nous écoutent ce matin, c'est possible. C'est-à-dire, d'autres pays l'ont fait. Je citais l'exemple du Royaume-Uni qui a revu sa politique pénale, qui a essayé de faire en sorte que la procédure soit plus rapide, qu'elle soit plus efficace. On peut citer l'exemple des Pays-Bas.
Où les peines plus courtes.
Le principe aux Pays-Bas, c'est qu'on agit, vous le rappelez avec raison, dès le début. Nous, en France, on attend le multirécidiviste. Et donc, on est submergé par la délinquance.
Mais qui va faire ça ? C'est-à-dire que ce que je trouve quand même très frappant, c'est qu'au fond, ce que vous dites, c'est ce que déjà Gérald Darmanin disait il y a un an. Reprenons l'exemple du PSG. Il y a un an, quasiment jour pour jour, il y avait les mêmes émeutes et il y avait à peu près la même proportion de personnes qui étaient arrêtées. Et à ce moment-là, Gérald Darmanin avait dit « c'est un échec, notre justice ne fonctionne pas suffisamment bien » et il avait proposé, parmi les pistes de réflexion, l'idée de supprimer le sursis. C'est-à-dire qu'en fait, une peine prononcée, elle est tout de suite appliquée. Elle n'est pas une menace pour si jamais un jour il y a à nouveau quoi que ce soit. Un an après, il est ministre de la Justice. C'est pas quelqu'un qui dit ça loin. Il est en ce moment même au ministère de la Justice. Et c'est encore une piste de réflexion. Je vous écoute tous et j'ai quand même l'impression que tout ça est très largement théorique. Quand est-ce que ça atterrit dans le monde réel ?
Mais si on veut que ça atterrisse dans le monde réel, il y a une première condition qui est juste la première de toutes les autres. Il faut faire des places de prison. Parce que tant qu'on ne fera pas de places de prison, tous les discours qui seront tenus ne serviront à rien. Notre problème, c'est qu'on n'est pas capable d'emprisonner. Et donc on a une politique pénale qui a été faite à rebours, en fonction du nombre de places de prison qu'on a. Et donc, l'impératif, mais ça fait 10 ans que je me bats en le répétant, c'est de construire des places de prison. J'ai un député dans mon groupe qui propose de construire des prisons chez lui, une prison chez lui, depuis plus de 10 ans.
Et pourquoi ça se fait pas ?
Bonne question. J'ai interpellé l'administration. On a essayé de le soutenir. Il se bat. Il essaie de s'exprimer dessus.
C'est quoi ? Non, mais c'est des blocages. C'est quoi ? C'est de l'urbanisme. C'est les associations de riverains. C'est la justice. C'est quoi ? C'est des moyens.
C'est globalement, je pense, un système qui est beaucoup trop lourd. Pour les Jeux Olympiques, on est capable de mettre en place des procédures ultra rapides pour faire des équipements sportifs. Il faut faire la même chose pour construire des places de prison. Et donc, si on reprend dans le bon sens, pour le dire très clairement, des places de prison. Deux, une refonte totale de notre politique pénale. Et pas juste quelques têtes d'épingle. C'est on a besoin de tout remettre à plat. Et sans doute que comme l'éducation, ça devra être pour moi un des grands débats de 2027.
Alors l'éducation, la justice, comment est-ce qu'on remet à plat? Quand vous écoutez par exemple Bruno Retailleau, le patron des Républicains, il dit qu'il veut créer, je cite, une cour disciplinaire de la magistrature avec cette question qui est celle de la sanction des juges et de la responsabilité des juges. Question aussi là-dessus, est-ce que à vos yeux les magistrats doivent rendre des comptes?
C'est un débat que Bruno Retailleau a raison de poser. Quand il y a un pouvoir, quand il y a une responsabilité, en face, il faut qu'il y ait des contreparties. Et donc, qu'il y ait évidemment la possibilité que quand il y a des dysfonctionnements lourds, la responsabilité des juges soit mise en cause, pour moi, c'est une évidence, ça ne doit pas
donc
poser
problème. Donc, il faut des sanctions.
Mais je vais quand même aller au cœur du sujet. Ce qu'attendent les Français, c'est pas de mieux sanctionner ou de plus sanctionner des juges qui font des fautes. C'est qu'on ait un système de justice qui fasse moins de fautes, qui fasse moins d'erreurs judiciaires, qui protège. Et donc, si vous m'interrogez ce matin sur ma priorité, moi, ma priorité, c'est une politique pénale plus rapide et qui sanctionne mieux. C'est ça ce que je pense être le cœur de notre débat.
Avec une autre question qui est la question des violences, en particulier vis-à-vis des femmes et des enfants. Cette proposition de loi dite intégrale, qui est une proposition de loi transpartisane, qui est portée plutôt par une députée socialiste, mais qui hier a été présentée aussi par la présidente de l'Assemblée nationale, qui voudrait que ça revienne à l'ordre du jour. Est-ce que vous estimez que cette loi, avec 140 propositions très vastes, très larges, elle doit être à nouveau examinée?
Vous l'avez dit, c'est une loi qui est portée par une députée socialiste. Je n'aurai aucun problème à la soutenir. Et mon groupe sera impliqué, si jamais elle vient à l'Assemblée nationale, pour pouvoir l'enrichir et l'améliorer. Mais je redis ce que je vous dis ce matin. Tout se tient. C'est la question de la protection de nos enfants. C'est la question de la lutte contre la délinquance des femmes, contre la délinquance contre les femmes, bien sûr. C'est une évidence. Mais c'est plus global. C'est toute notre politique pénale qui est par terre.
J'ai bien compris. Pour vous, c'est la question de, en gros, du début, c'est-à-dire ministère plutôt là de l'intérieur, jusqu'au bout, c'est-à-dire la question de la sanction et de l'application des peines.
Pourquoi je vous le dis? Parce que je suis convaincu qu'on peut y arriver. Je suis convaincu que ça peut se redresser. Je suis convaincu qu'on peut remettre de l'ordre dans notre pays. Mais à une condition, c'est qu'on pose les beaux débats, les bons débats. Et ma crainte, c'est que, comme toujours en France, quand il y a un drame, on a tendance à faire des réponses qui sont trop petites, trop limitées, qui se situent pas à la hauteur de l'enjeu. La hauteur de l'enjeu, c'est bien ça, c'est notre justice aujourd'hui est en faillite. Il faut retrouver une justice qui sanctionne.
Est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que c'est une question de philosophie?
Les moyens sont nécessaires, il en faut plus et ça ne sera pas suffisant. S'il n'y a pas cette volonté de sanctionner et cette capacité d'emprisonner, ça ne suffira pas.
Pour que ça passe, il faut gagner. Et il faut être au pouvoir. Vous avez dit la machine à perdre est enclenchée, mais qui l'alimente?
Mais
vous avez l'air tous de parler en votre nom propre. Il n'y a pas de collectif quand je vous entends, vous la droite.
J'essaye en tout cas. Alors peut-être que j'y arrive pas pour l'instant, mais j'essaye de parler à tout le monde. C'était pas ma spécialité. Hein.
Oui. Enfin, vous nous avez tous dit que vous aviez changé. Alors un de plus. Non, mais je veux dire, franchement, vous n'êtes pas le premier
C'est gentil, Madame de Malherbe, de commencer à me désespérer alors que ça commence.
Vous n'êtes pas le premier à me dire ce matin. Mais regardez comme j'ai changé. Regardez comme je suis amélioré. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Bon.
C'est pas du tout ce que je vous ai dit. C'était un léger petit trait d'autodérision qui de temps en temps peut être salutaire en politique.
Donc maintenant, vous êtes pour le collectif. Ok.
Non, c'est pas ça. C'est juste, je regarde. C'est quoi la situation? Division partout, multiplication des candidatures. Vous avez vu Mélenchon ce week-end?
Il dit, chez nous c'est carré, et en effet on peut dire que c'était carré. Hein. Tout le monde derrière lui, sur la scène.
Est-ce que c'était une démonstration de force?
Oui.
Oui. Est-ce qu'à l'arrivée, Jean-Luc Mélenchon sera beaucoup plus haut que ce que tout le monde veut croire? C'est une évidence. Est-ce que potentiellement, il peut être qualifié au second tour? Je le crois, je le dis depuis de nombreuses semaines. Et donc, la droite en étant divisée, prendrait une immense responsabilité de permettre la qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle. Ce que beaucoup de politiques à droite semblent totalement ignorer et ce que beaucoup de Français redoutent. Donc oui, je me bats. Alors, vous avez raison de me le dire. Très bien, vous m'expliquez que vous avez changé. Je me bats pour faire en sorte qu'on soit rassemblés.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous battre sur que Bruno Retailleau soit pas le candidat de la droite? Parce que c'est pas surtout ça l'objectif en vrai.
Je me bats pour que tout le monde soit rassemblé et même si vous essayez de m'emmener du côté de mes vieux démons, je n'irai pas là-dedans. Je considère que je veux parler à Bruno Retailleau, je veux parler à Édouard Philippe, je parle à Gérald Darmanin, je parle à Sarah Knafaud. J'essaye de mettre tout le monde ensemble et de leur dire très simplement, on a une responsabilité, on ne peut pas être chacun avec des candidatures isolées qui aboutiront à ce que la droite soit disqualifiée dès le premier tour. parce que dernière, il y a cette menace immense de Jean-Luc Mélenchon.
Alors on fait comment ? On fait comment ? C'est-à-dire que vous faites comment ? Quelle est la recette ? Est-ce que c'est une histoire de sondage ? On regarde, on dit au 1er septembre, on voit lequel est le plus haut. Est-ce que c'est une histoire de primaire ? Et dans ces cas-là, avec qui ? Vous évoquez Sarah Knafo, mais parce que Sarah Knafo, ça sonne pas comme Éric Zemmour. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a déjà dit, elle n'est pas sur la présidentielle, ce sera Éric Zemmour. Donc est-ce que ça va de Éric Zemmour, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, c'est pas Sarah Knafo, est-ce que ça va de Éric Zemmour à, je sais pas, Gabriel Attal ?
Alors d'abord, justement, ce que j'essaye de faire, c'est de pas tomber dans votre piège, pardon. Votre piège, c'est celui de la droite, c'est de raisonner à partir de personne. Et chacun s'excommunie, et tout le monde dit « je peux pas travailler qu'un tel parce qu'il m'a trahi il y a 5 ans » ou « un tel parce qu'il a pas les bonnes idées ». J'essaye de dire à tout le monde « commençons par travailler sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut porter ensemble ? Moins d'immigration ? Moins de dépenses publiques ? Moins d'assistanat ? Plus de pouvoir d'achat ? Plus de sécurité ? Plus d'économie ? Bon. Qui est-ce qui est d'accord avec ça ?
Le RN ?
Non.
Voici.
Non, apparemment, Madame de Malherbe, ce que vous dites est faux. Interrogez Madame Marine Le Pen. Demandez-lui si elle est de droite. Posez-lui la question de savoir est-ce qu'elle est prête à faire des économies sur la dépense publique.
Vous allez me dire, en effet, qu'il y a un désaccord sur les questions économiques.
Je vais aller. Ah bon, et pour vous, c'est rien l'économie ? Le pouvoir d'achat de ceux qui nous écoutent ?
C'est pas rien, mais jusqu'à présent, le RN était votre adversaire sur d'autres questions que celle-là.
Mais moi, j'ai toujours eu la même réponse. Je n'ai jamais changé à votre micro. Je vous ai toujours dit, si on veut redresser le pays, il faut arrêter l'assistanat. Il faut faire des économies sur la dépense publique. Il faut revaloriser le travail. J'ai toujours le même discours.
Ok, et alors donc, partons de ce principe-là.
Et donc, on commence par dire...
Comment vous organisez la sélection du candidat ?
Attendez, n'allez pas... parce qu'en fonçant comme ça, comme un chien fou, c'est comme ça précisément qu'on n'y arrive pas. J'essaye de poser les choses dans l'ordre. D'abord, un programme commun de la droite. Comment est-ce que la droite peut partager des idées ? Ensuite, faire discuter tout le monde ensemble. Moi, je veux qu'on puisse mettre dans une même pièce des personnalités de sensibilité différentes de droite qui ne se parlent plus. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et ensuite, à l'automne, il faut trouver un système pour arbitrer tout le monde. Moi, vous savez, celui pour lequel je plaide, je considère que seule une primaire peut permettre de le faire. Mais si d'autres ont de meilleures idées, je tiens pas à la primaire en tant que telle, je veux juste qu'on trouve un système qui permette de mettre tout le monde ensemble. Et ça doit se faire à l'automne. Et si ça ne se fait pas à l'automne, je pense que ce sera trop tard.
Est-ce que Renaissance, puisque on ne va pas dire les noms, puisque vous dites le problème n'est pas des personnes mais des idées, est-ce que les idées portées par le parti Renaissance ont vocation pour vous à faire partie de cette grande famille de la droite ?
Si elles sont à droite, oui. Si ça consiste à dire l'immigration, peut-être un peu, on peut continuer, on va pas complètement être ferme, non. Si on est clair sur le fait de dire on baisse la dépense publique pour rendre l'argent aux Français, comme ce que j'ai fait dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est oui.
Gérald Darmanin, sur l'immigration, pour prendre cet exemple-là, il dit il faut faire 3 ans de pause. Gabriel Attal, lui, il dit il faut se concentrer sur l'immigration de travail, donc stopper l'immigration, baisser en tout cas le regroupement familial et l'immigration plus familiale. Entre ces deux-là, le programme, enfin la proposition de Gérald Darmanin a davantage vos faveurs.
Bah oui, moi, vous me connaissez sur l'immigration, je suis favorable à ce qu'on soit très ferme. Il faut évidemment arrêter l'immigration hors de contrôle. Mais je ne suis pas fermé. C'est-à-dire que pour que la droite revive, il faut qu'elle accepte la stimulation d'idées et le débat. Si jamais je viens avec votre plateau et que je dis, moi je suis capable de travailler qu'avec des gens qui ont exactement les mêmes idées que moi, on ne s'en sortira jamais. Donc le principe, c'est de retrouver de la diversité. Il y a une droite qui est libérale, il y a une droite qui est gaulliste, il y a une droite qui est plus sensible au monde du travail, c'est la mienne, il y a une droite qui est très attentive au sujet économique. Voilà. Ça fait partie de la richesse d'une famille. Et au fond, depuis 15 ans, elle est partie en puzzle, pour reprendre l'expression des tontons flingueurs. Il faut la remettre ensemble. Et c'est ce que j'essaye de faire.
Votre vocation, c'est de réorganiser ça ? C'est-à-dire que vous ne vous rajouterez pas à la liste des prétendants ?
C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je ne me rajoute pas à cette liste de prétendants. J'essaye de contribuer au rassemblement. J'essaye aussi de ne pas être emprisonné dans un camp.
Parce c'est pour que ça que vous n'irez pas au meeting, vous avez dit que vous n'iriez pas au meeting de Bruno Retailleau le 20 mai prochain.
Je participerai.
Enfin, je ne sais plus quand c'est, là, en juin ou.
C'est pas très aimable.
Pardon, mais comme il y a des meetings en ce moment absolument partout, tout le temps et en même temps, c'est vrai que c'est le 20 juin.
C'est bien d'avoir une oreillette. Moi, j'en ai pas.
Je vous avoue que là-dessus, je ne savais plus. Je reconnais, moi aussi, mes torts.
Il n'y a pas de problème. Vous avez changé, vous aussi.
Oui, beaucoup.
Et donc, juste, qu'est-ce que je veux dire par là ?
Pourquoi vous n'y serez pas ?
Je ne participerai pas à des actions de campagne qui vont nourrir la division avant qu'on soit tous rassemblés. Donc je n'irai pas au meeting de Bruno Retailleau. Je ne participerai pas plus au meeting d'Édouard Philippe. Je n'ai pas fait d'action de campagne avec David Lisnard et pourtant c'est un ami. Parce que ce que j'essaye, c'est que je pense qu'on aura besoin de quelques personnalités.
Tout cela pourrait être légitime. Oui. Gérald Darmanin y compris, puisque c'est vous-même qui l'avez cité.
Pour moi, le candidat légitime des Républicains, c'est Bruno Retailleau, je l'ai dit. Mais ce que je cherche, c'est le candidat de la droite. Pas de tel ou tel parti, pas de telle ou telle chapelle. Ce qu'il faut, c'est mettre tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait quelques personnalités qui soient pas prises dans les camps, qui soient capables d'échanger, de discuter, de faire un peu le lien. J'essaye de le faire, il y en a d'autres qui le font. Gérard Larcher, par exemple. Gérald Darmanin aussi, hein, contribue à ce qu'on discute les uns avec les autres. On essaye de porter ça ensemble.
Laurent Wauquiez, vous avez dit, je crois, cette phrase, le plus grand danger aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous estimez que le plus grand danger, c'est Jean-Luc Mélenchon ou c'est Marine Le Pen?
Je le redis à votre micro. Le plus grand danger politique pour la République, c'est Jean-Luc Mélenchon. Quelqu'un qui considère que les policiers sont responsables de la violence, qui plaide pour la destruction de ce qu'est la laïcité et le lien républicain. Vous avez entendu les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la ruralité?
Sur le fait que, alors j'ai pas entendu l'intégralité de l'interview, donc je ne voudrais pas tronquer, mais les mots que j'ai entendus en effet étaient sur le fait que dans le monde rural, on se regrouperait uniquement entre personnes qui pensent la même chose, alors que dans le monde plus urbain, on aurait des discussions avec des gens plus divers.
Moi je viens, mon département c'est un département rural. Les propos de Jean-Luc Mélenchon étaient hallucinants de mépris. Et surtout, ils sont révélateurs pour moi de ce qu'est la menace de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il oppose les Français les uns aux autres. Il oppose les communautés à la République, il oppose l'enfermement dans le sectarisme par rapport
au lien républicain. Vous ne mettez donc pas de signe égal entre LFI et RN?
Pour moi, je le dis très clairement sur votre plateau, et je l'ai toujours dit, Jean-Luc Mélenchon, c'est le principal danger politique pour notre pays.
S'il y a RN, LFI au second tour, ce que vous tentez d'éviter, vous choisirez donc le RN? En toute logique.
Madame Apolline de Malherbe, si je viens à votre plateau, c'est pas pour considérer déjà qu'on a perdu. Si je viens ici, c'est pour refuser la division qui aboutirait à la disqualification de la droite au premier tour de la présidentielle. Et précisément ce que je ne veux pas, c'est que les Français n'aient que le choix au second tour entre le RN et Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je me bats.
Merci,
c'est le sens de mon combat.
Laurent Wauquiez, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Député Merci. De Haute-Loire et président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée Nationale. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV.
Merci Apolline. Et dans un instant, sur RMC, les dernières infos de la Coupe du Monde. Peut-on encore faire la fête en France sans débordement? On se pose la question ce matin. Et puis, est-ce que vous savez combien de joueurs nés en France vont participer au Mondial? La réponse dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
L'ouverture du Mondial après-demain, mais sur RMC, ça a déjà commencé.
RMC, Coupe du Monde de football, FIFA 2026.
Coup d'envoi dans deux jours.
Et bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu.
Dans
bonjour
un instant, vous allez nous dire que la France a déjà gagné la Coupe du Monde. Restez bien sur RMC. Alors avant cela, je me tourne vers vous. Julie Brault, bonjour Julie.
Bonjour.
Alors justement, est-ce qu'on peut encore faire la fête en France après un événement sportif? Imaginons qu'on gagne. On est 10 jours après les mauvais souvenirs de la victoire du PSG en Ligue des Champions. On se projette sur d'éventuelles futures célébrations. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rester chez vous? Sortir malgré tout? Julie, vous avez posé la question aux fans de foot.
Oui, ce qui est sûr, c'est que les violences en marge de la finale PSG-Arsenal sont encore dans toutes les têtes. Souvenez-vous, quelques 250 personnes placées en garde à vue rien qu'à Paris et plusieurs dizaines d'entre elles déjà condamnées en début de semaine dernière pour des violences ou des dégradations, des débordements qui ont refroidi Iman, cette mère de famille habitante de l'Essonne.
On supportera depuis chez nous. Moi, je ne laisserai pas mes enfants ou mes neveux sortir. Eux, ce sont de jeunes garçons, donc ils ont plus de risques d'être confrontés à des conflits, à des contrôles, à des choses de ce type-là. Donc on préfère les préserver, les protéger, les garder auprès de nous. Et puis on peut parfaitement partager cette émotion, cet enthousiasme depuis nos salons, nos jardins, nos maisons. Le foot, ça reste un sport. Et le sport n'est censé être fédérateur et non destructeur.
Mais alors pour d'autres, Julie, pas question de se priver. La fête, ce sera quoi qu'il arrive au cœur de Paris.
Oui, notamment pour les supporters chevronnés. Yann est membre de l'asso de supporters Les Baroudeurs du Sport. Pour lui, le foot, ça se vit et ça se fait ensemble. Mais pour éviter les débordements, il a prévu d'organiser des soirées spécifiques et encadrées.
Ça va être des bars, se retrouver, se donner des rendez-vous. C'est ce qu'on aime avant tout, c'est être ensemble.
Mais en cas de victoire ou pour les matchs décisifs, vous vous priverez pas d'aller dans la rue?
Ouais, c'est ça, pour les matchs à enjeu, je pense que bien sûr qu'il y aura la fête parce qu'on peut pas contrôler une foule qui est dans la passion, qui est dans la joie de la victoire. Pour la finale, c'est Champ de Mars et c'est fêté sur les Champs-Élysées, c'est obligatoire. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être, c'est là que c'est historique.
Et puis alors, les autorités, elles sont plus confiantes sur l'ambiance qui va régner pendant le Mondial.
Oui, parce que la Coupe du Monde, c'est une dimension plus grande, nationale, qui réunit un public différent, bien plus familial que celui des clubs de foot, assure Yann Kadri, délégué départemental du syndicat UNSA Police à Paris.
Lorsque l'équipe nationale joue, je pense notamment à l'équipe de France, ça réunit vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit, donc petits et grands. En plus, la France, on a de la chance, on a une belle équipe de France qui fait plutôt de beaux résultats. Donc généralement, il y a des belles célébrations qui s'en suivent.
Mais votre crainte, ça reste quand même les célébrations d'après-match.
Oui, parce qu'effectivement, souvent, lorsqu'il y a une victoire, il y a d'abord des scènes de joie, et c'est après, dès la tombée de la nuit ou un peu plus tard dans la nuit, que malheureusement, on voit souvent des scènes de pillage, d'affrontement ou autre. Et ça, effectivement, c'est ce que nous, fonctionnaires de police, on regrette, on déplore, bien évidemment.
Alors, certains matchs seront particulièrement scrutés, notamment ceux impliquant la France, l'Algérie ou encore le Maroc, d'autant qu'après avoir échangé avec des jeunes impliqués dans les violences post-Ligue des Champions, certains ont d'ores et déjà prévu de se regrouper dans la rue pendant la compétition. Alors, pour limiter les potentiels débordements, la ville de Clermont-Ferrand a déjà pris une mesure de couvre-feu pour les moins de 16 ans pendant toute la durée de la Coupe du Monde.
Merci Julie Brault, journaliste police-justice d'RMC.
RMC, le mondial de Virginie.
Avec le meilleur jingle de toute la bande FM. Rebonjour Virginie. La Coupe du Monde de foot ouvre donc dans deux jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et vous nous dites, Virginie, que la France a déjà gagné.
Ben oui, pourquoi se priver? Bon, on va pas bouder notre plaisir. On chante notre première Marseillaise. Bon, vous inquiétez pas, je suis pas en train de dire que la France a déjà remporté le trophée. Je veux surtout pas porter la poisse, non. Ce qui fait que la France est déjà championne, c'est que c'est le pays le plus représenté dans la compétition. 99 joueurs nés en France vont participer. Ça va donc bien au-delà des Bleus de Didier Deschamps, des joueurs qui auraient pu porter les couleurs de la France. On en retrouve dans les équipes d'Algérie, d'Haïti, d'Espagne, du Qatar. C'est ça aussi l'esprit de la Coupe du Monde.
Alors sur le terrain, les Bleus n'ont pas encore gagné. Ça va pas être simple hein, ce premier match contre le Sénégal.
Bah, surtout si l'on en croit le défenseur central du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Il a dit dans l'after d'RMC que son équipe était la meilleure du monde sur le papier. Peut-être une petite réponse à Ryan Cherki qui veut écraser tout le monde avec les Bleus. Je crois que le match du 16 juin est déjà lancé. Et en plus, les joueurs sénégalais sont allés visiter le centre d'entraînement des basketteurs des Spurs de San Antonio hier. Oui, oui. L'équipe de Victor Wembanyama, on lui dit merci à Wemby, franchement. Bon, il faut dire que les Sénégalais étaient invités par leur ancien joueur Gorgui Dieng qui a intégré le staff des Spurs depuis la fin de sa carrière.
Et puis alors, les Bleus auront un autre adversaire de taille, la chaleur.
Alors, vous allez peut-être me dire, bah oui, comme les autres, mais non. Plus que les autres. Oui, oui. D'après une étude de Bloomberg, la France sera la deuxième équipe la plus exposée à la chaleur pendant la phase de poule. Plus de 28 degrés en moyenne pendant les trois premiers matchs. Les stades de New York, de Philadelphie et de Boston, où les Bleus vont jouer leur match de poule, ne sont pas équipés de la climatisation, contrairement à d'autres enceintes, plus une humidité très élevée. Si je prends l'exemple de l'Espagne, elle joue deux fois à Atlanta dans un stade climatisé. Donc du coup, on critique beaucoup moins les pauses fraîcheurs hein, tout de suite.
Hein. Alors par contre, Virginie, on a le droit encore de critiquer le prix des billets.
Vous êtes prêts à débourser combien pour un match de poule pour cette Coupe du Monde? Le record, c'est pour Uruguay-Espagne. Dernier match du groupe H, 27 juin, 17 199 euros.
On va faire une cagnotte.
C'est ça.
Ça n'a aucun sens.
Pour l'équipe de France, le record pour la phase de poule, c'est France-Norvège, 26 juin, 5 767 Allez. Euros. Si vous voulez moins cher, vous avez France-Irak, 980 euros. Là, c'est une bagatelle, vous pensez.
Bon. Et puis alors encore une innovation pendant les hymnes pour cette Coupe du Monde.
Ça va se bousculer autour du rond central. Pour la première fois, les remplaçants seront aussi présents sur la pelouse. C'est-à-dire que chaque équipe peut présenter ses 26 joueurs. La FIFA appelle ça avec emphase une cérémonie à 360 degrés. Je crois qu'on peut dire plus simplement qu'ils vont être autour du cercle. Voilà. Ils tourneront.
Autour du rond central. Merci Virginie. La Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC Radio officielle avec la Dream Team RMC. Il y a quand même 4 champions. Champion du monde dans cette Dream Team RMC Sport, Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Dans un instant, les GG. Alain Martial est déjà installé, en place. Bonjour Alain, quel est le programme?
Dans les GG, dans les grandes gueules, on viendra sur cette colère des Français après la mort de Liana. On l'a entendu hier au forum BFM TV avec des Français qui ont dit au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, protégez-nous, sinon nous ferons justice nous-mêmes. Est-ce que ce sentiment est en train de monter dans la population? Oui ou non, vous venez en discuter avec nous. Le slogan de la France insoumise. Insoumise, on est chez nous. Alors maintenant, c'est la bataille entre la France Insoumise et le Rassemblement National. À qui appartient le on est chez nous? Vous venez en parler avec nous au 32-16, bien sûr. Et puis, on reparlera de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme, où la préfète et le maire de la ville disent couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans au moment de la Coupe du Monde. 32-16 pour en discuter avec les GG.